Le premier, c'est de l'hypercroissance. Tu peux pas aller lever du capital si tu fais pas 2 à 3x d'année en année. Donc, c'est-à-dire si tu multiplies pas ton chiffre d'affaires par 2 ou par 3 d'année en année. C'est juste pas le modèle.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 75e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. À chaque année, le célèbre magazine américain Forbes publie un article regroupant 30 personnalités en bas de 30 ans ayant marqué la dernière année de manière spectaculaire. Mon invité du jour, Rodolphe Barrère, président et cofondateur de l'entreprise technologique Potluck, a été la tête d'affiche de cette dernière édition pour la cohorte européenne. En ayant amené son entreprise à bientôt plus de 100 employés, Rodolphe discute avec nous aujourd'hui de plusieurs sujets spécifiques, dont l'impact fondamental de bâtir une culture organisationnelle forte. À titre indicatif, Potluck a une cote de popularité très élevée chez ses employés en ayant des notes frôlant la perfection sur Glassdoor. On parle aussi d'hypercroissance, bien entendu, sachant que les revenus de Potluck grandissent de manière exponentielle année après année. Et Rodolphe nous explique également l'importance de travailler avec du financement externe si on veut bâtir une entreprise qui a l'ambition de dominer un marché très rapidement. Sans plus attendre, ma discussion avec Rodolphe Barrère. Rodolphe Barrère, vous êtes président et cofondateur de l'entreprise technologique Potluck, fondée à Montréal en 2014. Au cours des 7 dernières années, vous avez été capable d'amener votre entreprise en hypercroissance en ayant près de 100 employés au moment où on se parle. Vous avez également une croissance qui a fait x5 en 2020 seulement. Afin de soutenir cette vitesse colossale, vous avez levé 20 millions de dollars en financement en décembre dernier. Rodolphe Barrère, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour Antoine, merci de m'avoir invité.
Rodolphe, j'ai cru voir qu'avant de te lancer en affaires, tu as travaillé en marketing pour l'entreprise de luxe Louis Vuitton de 2012 à 2013. Peux-tu nous expliquer un petit peu aujourd'hui, là, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer au niveau entrepreneurial et de fonder Potluck après avoir travaillé dans une entreprise de l'envergure de LVMH?
Alors, écoute, LVMH, ça remonte un peu. Hein. C'était en réalité pendant mes études au HEC de Montréal. J'avais fait un break d'un an. Je m'étais arrêté pendant un an. J'avais voulu faire un stage dans un grand groupe. J'avais un attrait pour le luxe. Donc, j'étais allé travailler dans les vins et spiritueux chez LVMH. Donc, le MH de LVMH, c'est-à-dire Moët Hennessy, qui commercialise du champagne, du cognac. Et moi, je m'occupais des vins étrangers. Donc, c'était super. J'ai appris beaucoup de choses, etc. Le monde de l'entreprise m'a plu hein, dans l'absolu et en fait c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à monter Potluck. C'est que je suis retourné aux études après avoir travaillé pendant un an et j'ai trouvé le rythme des études et des cours tellement lent par rapport à un rythme d'entreprise avec des choses qui se passent tous les jours que je me suis très vite ennuyé. Et en fait à partir de septembre 2013 donc avec mon colocataire qui est devenu mon associé, donc Louis Delahoustre, on a commencé à travailler sur cette idée de Potluck. Et puis en fait ça a pris, ça a bien fonctionné et en fait on s'est jamais arrêté. C'est globalement comme ça que ça a démarré.
On va parler davantage de croissance aujourd'hui avec l'entreprise, mais avant de rentrer là, dans le vif du sujet, peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que Potluck, qu'est-ce que vous faites, quel type de client vous desservez et également, c'est ça, c'est quel type d'employé également qui travaille dans votre organisation?
Alors, beaucoup de questions. Potluck, c'est une entreprise de consumer research ou de recherche marketing. Donc, en fait, on essaye de réinventer modestement le monde du sondage. Donc, le monde du sondage, l'industrie du sondage, c'est une industrie gigantesque. Hein. C'est 90 milliards de dollars dépensés annuellement à travers le monde. C'est énorme. Et en fait, c'est une industrie qui a été peu disruptée, qui a peu changé au fur et à mesure des années. Donc, en fait, on utilise toujours beaucoup des sondages téléphoniques. Je suis sûr que t'en as été la victime et que les gens qui nous écoutent en ont déjà reçu. Ou alors ce qu'on appelle des panels web, des panels consommateurs, où en fait, t'es inscrit pour répondre à des questionnaires et puis tu peux gagner des points Air Miles, bref, en répondant à des sondages. Et nous, on est arrivé avec un regard très neuf dans cette industrie en se disant, mais en fait, des gens comme Louis et moi, mon associé, on répondrait jamais à des sondages. Qu'est-ce qui ferait qu'on répondrait à des sondages? Et c'est en fait, c'est en partant de ce postulat-là qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, la majorité des gens se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a 4,4 milliards de personnes abonnées sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, et si on interrogeait les gens via les réseaux sociaux, ça nous permettrait de faire beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est ce qu'on a développé aujourd'hui chez Preplog, donc ça s'appelle du social media sampling, donc de l'échantillonnage sur les réseaux sociaux. Et en fait, on permet à des grands groupes, donc des grandes entreprises internationales, beaucoup de firmes de conseil aussi, donc les BCG, Bain, McKinsey de ce monde, d'aller interroger des populations ciblées en utilisant LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tous les différents réseaux sociaux. Donc, c'est ça qu'on fait chez Potluck. On fait du sondage ultra ciblé pour que nos clients puissent mieux comprendre la cible à qui ils essaient de commercialiser leurs biens et services.
Intéressant. Mais parle-moi un peu de la plateforme en soi. Donc, à la fin de la journée, j'imagine que cette plateforme-là va vous aider à comptabiliser toutes les données, toutes les réponses reçues des consommateurs. Mais est-ce que vous aidez également votre client à aller chercher cette donnée-là peut-être en bâtissant des pages d'atterrissage, des landing pages, aller peut-être même les aider pour savoir comment qu'ils allaient investir leur budget sur les médias sociaux pour avoir des répondants qui vont, disons, répondre à leurs diverses questions?
Non, on s'occupe de tout. C'est pas du tout un modèle de service, c'est un modèle de logiciel. Donc en fait, on a développé une technologie qui permet d'aller interroger un échantillon représentatif d'une population. Donc par exemple, si ton podcast s'adresse aux entrepreneurs québécois, bon bah parfait, tu vas me dire ok, j'aimerais bien faire une campagne de faire un sondage de notoriété, savoir quels invités les gens ont envie d'écouter, etc., etc. Donc là, parfait, on va dire ok, donc là il faut qu'on interroge un échantillon représentatif des entrepreneurs du Québec. On va pas interroger que des hommes, ni que des femmes, ni que des gens de Montréal, ni que des moi, je suis un entrepreneur qu'on dit issu de l'immigration ou des etc. Donc, il faut composer un échantillon représentatif de la cible que tu cherches à avoir. On va interroger, mettons, 500 entrepreneurs québécois. Donc, derrière, nous, ça va pousser de la publicité sur les différentes plateformes réseaux sociaux que j'ai nommé plus tôt, jusqu'à obtenir le bon échantillon avec des entrepreneurs qui viennent de Sherbrooke, des entrepreneurs qui viennent de Trois-Rivières, des entrepreneurs qui viennent de Montréal, des Français, des Italiens, des Québécois, des hommes, des femmes, des entrepreneurs en démarrage, des entrepreneurs en succès, etc., pour t'assurer que toi, tu as un échantillon représentatif comme une campagne électorale, finalement. Un échantillon représentatif de ta cible et tu peux prendre une décision d'affaires et dire, bon, mon podcast, il faut plutôt que j'invite des entrepreneurs issus de l'immigration ou des femmes entrepreneurs, puisque c'est ça que mon audience attend. Donc voilà, nous, c'est exactement à ça qu'on sert. Donc, on a notre technologie, c'est deux choses. C'est à la fois les algorithmes de sourcing, donc qu'on appelle d'échantillonnage sur les réseaux sociaux, et à la fois la plateforme d'analytique, donc qui derrière, c'est une sorte de dashboard interactif super cool, dans lequel tu peux croiser tes données dans tous les sens pour prendre des décisions et voir si, encore une fois, les entrepreneurs de Sherbrooke, ils veulent la même chose que les entrepreneurs de Montréal. Donc voilà, c'est ça, Potluck, aujourd'hui.
Wow. Puis vos clients, davantage, tu le disais un petit peu plus tôt, c'est des entreprises d'envergure, donc vous travaillez davantage avec des corporations présentement que des petites et moyennes entreprises?
Oui, parce qu'en fait, ça coûte assez cher. C'est un sport de riche de faire des sondages représentatifs. Il n'y a rien en dessous de 10 000 $. Nous, on travaille il y a 60% des revenus. C'est Boston Consulting Group, McKinsey, Bain, LEK, Roland Berger, KPMG, EY, etc. Et le reste, le 40% de revenus, c'est des grandes marques. Donc, Uniqlo, L'Oréal, ou des grandes marques ou des plus petites marques. Au Québec, on a Benny & Co, on a Desjardins. Voilà. Et donc, ces entreprises, elles peuvent avoir envie d'interroger leurs clients, elles peuvent avoir envie d'interroger leurs non-clients, les gens qui ne viennent pas chez eux pour comprendre, peuvent avoir envie d'interroger leurs employés, elles peuvent avoir envie de voir la notoriété de leur marque dans des marchés émergents, etc., etc. Donc, tout ça, ça se fait grâce à des outils de sondage. Et nous, c'est ce qu'on leur permet de faire. C'est plus rapide, beaucoup plus ciblé. C'est pas des répondants professionnels. Et généralement, on est même moins cher.
Intéressant. Je voudrais continuer puis revenir un petit peu davantage au volet de croissance que j'ai dit plus tôt. Donc, clairement, on comprend un petit peu le service, le logiciel que vous offrez à ces différentes entreprises-là. Maintenant, j'écoutais certains entretiens que tu as donnés récemment. Tu parlais d'une croissance qui a fait x5 de votre organisation en 2020, donc clairement pas de le vent dans les voiles. À quoi tu attribues cette croissance-là, cette vitesse d'accélération que vous avez présentement?
Nous, on fait plutôt partie des entreprises qui ont bénéficié de la COVID. Donc, ça, je voudrais vraiment le dire avec énormément de modestie, puisque selon moi, c'est assez injuste ce qui s'est passé avec la COVID. Soit tu étais dans la bonne industrie, soit tu l'étais pas. Les pauvres personnes qui étaient dans le travel ou dans la restauration, etc. Bon, bah juste malheureusement, pas de chance. Quand il y a une épidémie, tu es du mauvais côté de la ligne. Et vraiment, c'est un facteur chance. Nous, en réalité, on en est dans le sondage. Donc, dans le sondage, il y a énormément de choses qui se font dans ce qu'on appelle des focus group. Focus group interdit, pour commencer. Deuxième facteur d'accélération, mais vraiment tous les habitudes de consommation ont changé en 2020. Toi, moi, Antoine, on consomme plus du tout de la même façon depuis qu'il y a la COVID. Et on a tout changé, hein, que ce soit notre consommation de divertissement, de nourriture, on a tout changé. Et donc, évidemment, bah, toutes les marques se sont retrouvées un peu désarmées en disant « Oh putain, les patterns de la planète entière ont complètement changé, il faut que je comprenne ce qui se passe ». Et donc là, bam, le premier réflexe, c'est « Allons à la rencontre de nos clients, interrogeons-les ». Donc nous, on a vraiment bénéficié de ce grand moment d'incertitude, puisqu'un sondage permet de lever des incertitudes, par définition. Et donc, ça nous a permis d'avoir une vraie accélération. Encore une fois, je regarde ça avec un regard très modeste et très humble, parce que je considère que les entreprises qui ont bénéficié de la COVID versus celles qui n'ont pas bénéficié de la COVID, c'est quasiment uniquement de la chance et ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir vu venir, parce que je pense que personne ne peut avoir la prétention de dire je l'avais vu venir. Et voilà. Moi, quand la pandémie a démarré, je me suis dit bon, je ne vends pas des masques et je ne vends pas des bouteilles d'eau, ça va être difficile le sondage, et en fait, ça s'est super bien passé.
Ouais, effectivement, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, puis que c'est arrivé un petit peu sans qu'on s'y attende. On est davantage nous dans le volet du commerce en ligne. Il y a eu un boom au niveau des ventes en ligne en mars et en avril 2020. Tout le monde croyait que maintenant leur commerce en ligne était le meilleur au monde, qui vendait plus que n'importe qui. Ben finalement, c'était peut-être pas nécessairement ça. T'arrives au mois de mai, au mois de juin, tu retournes à une réalité qui est davantage normale. Parlant de réalité, maintenant, crois-tu que cette accélération-là a la force de continuer comme ça en 2021? Ou tu penses peut-être que le marché risque de ralentir un tout petit peu là, avec, on l'espère, un retour à la normale? Bon, on ne sait pas quand, mais on pense que ça va arriver prochainement.
Écoute, nous, notre play, c'est de faire, et je suis désolé, j'utilise plein d'anglicismes, mais ça, c'est mes origines françaises que je n'arrive pas du tout à cacher. Je m'excuse. Je suis québécois de cœur, mais d'accent, je suis français. Et nous, notre play, c'est de réussir à convertir les entreprises sur une méthode de sondage qui utilise les réseaux sociaux. Donc, en fait, on leur dit, vous allez voir, c'est vachement mieux que les méthodes téléphoniques, etc. Mais ce qui est difficile pour les entreprises, c'est que généralement, elles doivent comparer les résultats aux résultats des années précédentes. Et donc, comme de manière, t'as toujours un biais dans la façon dont t'interroges les gens, puisque c'est jamais obligatoire de répondre à un sondage. Donc, de toute façon, t'interroges les gens qui ont une plus grande propension à vouloir répondre à un sondage. Bref, et ces gens-là ne sont pas les mêmes quand tu appelles sur les téléphones fixes que quand tu vas sur les réseaux sociaux. Donc, tu passes d'un biais à l'autre. Et donc, en fait, tous les gens qui ont fait ce changement-là pendant la pandémie, ils vont jamais revenir en arrière. On va jamais avoir un de nos clients qui dit « Ah, maintenant, je fais tous mes sondages via Potluck, multiplateforme, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, et je vais repasser à avoir des intervieweurs téléphoniques qui passent des coups de fil sur les téléphones fixes toute la journée. » Ils vont jamais faire ce mouvement arrière dans le temps. Donc, nous, on sait que tous les clients qu'on a acquis dans les dernières années sont des clients qui sont, et en plus, on mesure leur satisfaction, évidemment, mais sont des clients qui sont acquis pour de bon, quoi. Jusqu'à qu'on ait quelqu'un d'autre qui vienne dans notre marché apporter une autre innovation. Mais aujourd'hui, on est la dernière innovation. Enfin, ça paraît d'une logique implacable que de dire qu'aujourd'hui, les sondages doivent se faire sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où sont les gens, c'est là où ils, entre guillemets, passent la majorité de leur temps quand ils sont en digital. Donc, voilà.
Intéressant. On a parlé de 2021 et 2020, mais également, je reviendrai à l'année de la fondation en 2014. Je crois que c'était dans un entretien que tu avais donné avec Serge Beauchemin que dans votre première année d'exploitation, et corrige-moi si je me trompe au niveau des chiffres, vous avez généré près de 250 000 $ de revenus avec une marge brute de 95%. Donc, d'un point de vue externe, on voit des chiffres comme ça, on se dit, bon, l'entreprise est viable, ils ont un beau modèle d'affaires, ils ont l'air d'avoir une clientèle cible, un product market fit qui est intéressant. Et là, quand on est dans une réalité comme ça, ben automatiquement, on doit se dire que c'est une business qui est viable, qui va générer de la profitabilité. Et là, j'ai vu par la suite que vous avez décidé d'accélérer le tout et d'aller chercher davantage de capital externe. Question pour toi que je te pose, est-ce que ça vous est passé par la tête de vous dire, hein, avec cette marge brute qu'on a là, cette croissance qu'on a là rapidement, on va s'autofinancer. On n'ira pas chercher de capital externe, on va le faire nous-mêmes et à partir de là, on va essayer de prendre le marché avec de l'autofinancement.
Oui, bien sûr. Bah, c'est des questions que tu te poses et puis tout bon investisseur te la pose également, hein, parce que évidemment, lever du capital de risque, comme tu disais en introduction, là, on vient de lever 20 millions de dollars. Ça fait cool dans les médias, mais la vérité, c'est que ça vient avec son lot de challenge et c'est beaucoup plus challengeant que de le faire en autofinancement. Donc, c'est une vraie question que tu dois te poser à titre d'entreprise et même à titre personnel. Une petite correction, hein, la première année de Potluck 2014, on a fait zéro. La deuxième année, on a fait zéro et la troisième année, on a fait 200 000.
Ah, oh, ok.
On a beaucoup, beaucoup galéré au début. On a fait beaucoup de différents modèles d'affaires qui ne fonctionnaient pas du tout. Et au bout d'un moment, on en a trouvé un. Mais voilà. Justement, quand on trouve ce modèle d'affaires-là, on voit bien qu'on a mis le doigt sur un truc exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur une industrie qu'on connaissait pas du tout, l'industrie de la research, et on arrive à faire quelque chose que aucune des grandes firmes à la Ipsos, GfK, Kantar, etc., Nielsen, qui sont des espèces de joueurs historiques de l'industrie, qui font du très bon travail, hein, cela dit, n'ont réussi à faire. En fait, on a réussi parce qu'on était agile et qu'on n'y connaissait rien à trouver des méthodologies et à développer une technologie unique. Et là, on s'est dit, waouh, on est les premiers sur le marché avec ce truc-là, ça a un potentiel de dingue, il faut en gros qu'on inonde le monde avec ça. Et si tu le fais en croissance organique, tu peux pas. Et en fait, on savait que si on continuait en croissance organique, on aurait peut-être pris le marché québécois, tu vois, aujourd'hui. Mais on n'en serait jamais là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un bureau à New York, un bureau à Paris, on vend partout dans le monde. On n'aurait jamais pu avoir cette croissance si forte. Donc, en fait, le capital de risque permet, quand c'est justifié, de vraiment, en anglais, on dit, on était c'était le first to market, quoi. On était les premiers arrivés avec cette techno. On s'est dit, là, faut absolument qu'on la commercialise en premier, sinon on va se faire doubler dans un virage par quelqu'un qui aura des reins plus solides que nous. Et donc, jusqu'à date, c'était un excellent move, puisqu'on est toujours, maintenant, on a plein de gens qui nous copient, enfin, qui copient, qui essayent de reproduire la même chose, et on est quand même les premiers, en fait. Donc, on a bien fait, d'aller si vite.
Votre marché, présentement, est davantage aux États-Unis, en Europe, où est-ce que se situe davantage votre marché?
50% du marché mondial du consumer research se situe aux États-Unis. Donc, évidemment, on peut pas passer à côté. Nous, la majorité de nos clients sont européens et américains. On commercialise très peu, voire pas au Canada, en fait. Donc, on va récupérer des deals, on va dire, en inbound, parce que on a un peu de réputation sur le marché. Donc, on a quand même des gens qui nous contactent ici. Mais on n'a pas d'efforts commerciaux qui sont faits sur le Canada, puisque en fait, c'est un terreau peu fertile pour le monde du sondage parce que c'est beaucoup d'entreprises américaines et finalement toutes les grandes décisions sont prises par les sièges sociaux qui sont eux localisés aux États-Unis.
Intéressant. Tu disais également dans ton entretien avec Serge que si une entreprise veut prendre l'avenue du capital de risque, l'entreprise doit présenter aux investisseurs dans son modèle trois aspects fondamentaux. Bien entendu, tous ces aspects sont reliés à la croissance. J'ai trouvé ce que tu avais dit excessivement fascinant. Pourrais-tu partager à l'audience aujourd'hui qu'est-ce que ces trois aspects qu'une entreprise doit avoir si elle prend, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, l'avenue du capital de risque?
Alors là, tu me mets dans un coin parce que j'espère que je vais te donner les trois mêmes que ceux que j'ai donnés à Serge Beauchemin il y a un mois. Normalement, je suis quand même cohérent dans mon point de vue. Alors, pour moi, les trois aspects, c'est le premier, c'est de l'hypercroissance. Tu peux pas aller lever du capital si tu fais pas 2 à 3x d'année en année. Donc, c'est-à-dire si tu multiplies pas ton chiffre d'affaires par 2 ou par 3 d'année en année. C'est juste pas le modèle. Donc en fait, il faut être prêt à signer de son sang que tu vas devoir faire 2 à 3 fois ton chiffre d'affaires d'année en année. Et alors ça implique un nombre de sacrifices et de changements et c'est un nombre d'heures de travail incommensurable. Et donc il faut être prêt à faire ce sacrifice parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable. Et en plus, ça devient de plus en plus difficile. C'est facile de faire 3 fois 0, mais quand tu fais 5 millions, ça commence à devenir un peu plus challengeant. Donc voilà. Le deuxième aspect qui, selon moi, est très important, c'est d'arriver sur un marché qui est assez grand. Donc, si tu as un marché de niche, en fait, si prendre 50% des parts de marché dans le monde, c'est faire 50 millions de chiffres d'affaires, il y a un problème. Nous, le marché qu'on adresse, il y a 90 milliards. Donc, c'est largement assez, quoi. Ça veut dire, c'est gigantesque. On peut faire une boîte qui fait des milliards et des milliards de chiffres d'affaires et on n'aura pris que quelques pourcents du marché. Donc, ça, c'est très important. Et le troisième aspect, bah, écoute, j'hésite. Alors, je sais plus ce que j'ai dit à Serge. Pour moi, il y en a deux. Il faut amener une innovation, il faut amener quelque chose de nouveau sur le marché, et où c'est l'équipe de management. En tout cas, ce que cherchent les VC, c'est une équipe de management. Faut être un peu fou, quoi. Faut être complètement passionné. Faut être picousé par ce que tu fais. Et faut qu'ils le sentent, il faut qu'ils le voient. Et voilà. Et tu vois, nous tous les investisseurs qu'on a, on a 6 fonds d'investissement qui ont investi chez nous. Bright Spark, bon, je vais pas tous les citer, mais ils nous ont suivis pendant des années et ils ont vu le commitment et ils ont vu les efforts nuit et jour, tous les week-ends, tout le temps pour corriger tous les trucs qui fonctionnaient pas, etc. Et en fait, ils font confiance également à la résilience d'une équipe entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment un critère de fonds d'investissement. L'aspect humain, il est fondamental.
Ouais, effectivement. Mais
est-ce que j'ai dit la même chose que...
Ouais. Exactement, je pense que les mots d'ordre que tu avais dit et que tu gardes toujours par rapport à des entreprises qui prennent l'avenue du capital de risque sont toujours bons d'un podcast à l'autre, donc je te félicite là-dessus. Puis effectivement, faire du x2, x3, x4, x5, année après année, on le dit, c'est plus facile quand t'es petit comparativement quand tu arrives à prendre une certaine part de marché. Là, vous venez de lever 20 millions en financement. Où va présentement cet argent-là? Est-ce que c'est uniquement dans de la prise de marché? Je recevais récemment Antoine Bisson, qui est cofondateur de Poca. Eux, ils viennent de lever leur série A récemment, ou série A ou série B, je ne me rappelle plus, mais c'est à peu près dans les mêmes zones de financement qu'ils ont fait. Et là, ils nous ont dit, tout l'argent va uniquement en développement et en prise de marché pour aller prendre la clientèle le plus rapidement possible. Est-ce que c'est la même réalité pour vous présentement?
Nous, il y a 3 avenues principales. Donc, si tu veux, nous, on gère des équipes. J'ai des équipes en RH, en talent, en product, en dev, en sales, en customer success, en admin, en finance, en marketing, etc. Donc, la vérité, c'est que l'argent, il va un peu partout. Pour financer la croissance, tu as besoin de tout. Genre, si tu n'as plus personne pour faire les chèques de paye, tu as un problème aussi. Mais moi, je donne des grands axes de développement et c'est là qu'on met la majorité des fonds. Donc, le premier, c'est de continuer à grossir l'Europe. Donc, on va faire 3x en Europe, alors qu'on est déjà très fort. Donc, en plus, c'est des euros, donc c'est super avec le taux de change pour en tant qu'entreprise canadienne. Le deuxième, c'est on est plus mature en Europe qu'aux États-Unis. Donc, le deuxième, c'est de faire en sorte que les États-Unis représentent 50% du chiffre d'affaires de la compagnie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça met la barre très, très haute parce qu'en fait, on veut que les États-Unis se retrouvent égales à l'Europe, sachant que l'Europe, on l'a démarré déjà il y a 4 ans, alors que les US, on les a démarrés il y a 6 mois. Voilà. Et le troisième aspect, qui est négligeable, c'est que on a une technologie qui est en évolution constante, qui est d'une complexité très complexe en fait, hein, de faire la technologie qu'on fait, puisque on a allié 2 mondes. On a allié le monde du digital marketing, donc des gens qui tu as un monde que tu connais bien, avec le monde de la recherche consommateur. Le monde de la recherche consommateur, c'est les gens qui s'assurent que les gens n'aient pas de biais dans leur façon de répondre, qui ils sont, comment ils ont été recrutés, etc. Et il faut qu'on arrive à faire collaborer ces 2 mondes dans notre produit aujourd'hui. Donc énormément d'argent qui est mis en recherche et développement. Montréal, c'est une ville, et le Québec, c'est une province géniale pour faire du développement et de la R&D, puisqu'il y a énormément de talents, il y a énormément de subventions gouvernementales aussi, notamment avec des crédits recherche et développement. Donc c'est vraiment un super endroit pour faire ça.
Est-ce que ça se trouve bien la main d'œuvre à Montréal présentement?
Bah non, c'est super compliqué, mais pareil partout pareil, hein, à New York, à Paris. En fait, quand t'es exigeant et que tu cherches des gens super performants qui sont en plus alignés avec tes valeurs d'entreprise, parce que nous, la culture d'entreprise est très, très importante chez nous, forcément, ta liste, elle est super courte et puis tout le monde se bat pour les mêmes profils. Donc, quand t'es très élitiste dans ton recrutement, et c'est notre cas, le marché, où que tu sois, il est toujours trop petit, en fait. Le bassin, il est toujours trop petit.
T'as parlé brièvement de culture. C'est là que je voulais m'en aller un petit peu par rapport à votre organisation. Donc, encore une fois, je faisais mes recherches et sur différents sites qui vont parler d'une culture d'entreprise, un qui me vient en tête, c'est Glassdoor. Vous avez des notes de 4.9 sur 5, des centaines et des centaines de reviews qui dit à quel point la culture, elle est belle, elle est forte chez Potluck. À quoi tu attribues un bonheur des employés comme ça, Rodolphe? Est-ce que vous avez mis des initiatives particulières à l'intérieur de l'organisation pour s'assurer que la main-d'œuvre, même en temps de COVID, reste très heureuse de travailler pour Potluck?
Alors, ça, c'est mon sujet préféré. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, donc il faut absolument que tu m'interrompes. Mais bon, en tant que CEO de l'entreprise, je considère que le truc sur lequel je suis le plus accountable et redevable auprès des équipes, c'est la culture. Pour moi, créer une entreprise où il fait bon vivre, aujourd'hui, tu le mentionnais, 100 d'employés, avoir 100 employés heureux, pour moi, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un accomplissement. Et en fait, si j'ai envie de faire grossir la business, bon, c'est pas pour tous les challenges, etc. Mais c'est aussi parce que je sais que chaque nouvelle personne qu'on accueille chez Potluck, c'est une personne qui va être épanoui professionnellement et qui va s'éclater. Et pour moi, c'est con, mais c'est ma contribution à rendre le monde un peu meilleur. C'est en employant des gens et en les rendant heureux grâce à l'emploi qu'ils ont. Donc maintenant, comment on fait pour mettre une saine culture en place? C'est hyper difficile, pas difficile, mais c'est un sujet qui est hyper vaste. Le meilleur conseil que je peux donner, et ce que nous on a appliqué chez Potluck, c'est de définir des valeurs. Alors c'est assez classique, mais dans la façon dont on a défini les valeurs, c'est qu'on s'est assis, mon associé et moi, et on a pris nos valeurs personnelles en tant que fondateur. Donc en l'occurrence, je vais pas te les détailler, mais c'est apprentissage, ambition, transparence et esprit d'équipe qui sont les trucs qui nous définissent moi. Tu vois, mes amis, tu leur demandes mes valeurs avec mes défauts et mes qualités, hein, parce qu'une valeur, c'est pas toujours... Quand t'es transparent, par exemple, moi je suis hyper transparent, c'est-à-dire que je dis aussi tout ce que je pense. Alors il y a des gens qui voient ça comme un défaut parce que c'est un peu, tu vois, je peux être un peu brutal de temps en temps puisque je dis ce que je pense. Donc en fait, une valeur vient avec des pour et des contre, mais on a pris nos valeurs et on en a fait les valeurs de l'entreprise et on a recruté que sur ces valeurs-là. Donc en fait, on a recruté que des gens qui fondamentalement sont câblés, on va dire émotionnellement, de la même façon que les fondateurs. Peu importe d'où ils viennent, hein, parce que évidemment ça apporte, c'est très divers comme milieu de travail. Mais voilà, donc ça c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse donner, c'est prendre ses propres valeurs, en faire les valeurs corporatives. Moi, il n'y a jamais un jour où j'arrive au bureau et je me dis, oh là là, il faut que j'agisse de telle ou telle façon pour faire passer tel ou tel message. Je suis moi, et les gens, ils ont pas payé pour ça, mais je leur ai dit qu'ils allaient avoir ça et ils ont ça. Tu vois, donc il n'y a pas de surprise, bonne ou mauvaise. Donc voilà. Et après, peut-être le deuxième conseil qui va être très court, c'est écouter. Moi, j'écoute énormément. Alors là, tu me fais beaucoup parler, mais dans l'absolu, dans la vie, j'écoute. Donc, tu vois, je fais des one-to-one toute la semaine avec les employés. Je les écoute, je leur pose des questions, je leur dis si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as des roadblocks? Sur quoi tu bosses en ce moment? Comment se passent tes relations avec tes collaborateurs, etc. Moi, mon job, c'est de décider dans la boîte globalement maintenant. Donc, c'est prendre les décisions difficiles parce que les décisions faciles, elles sont prises sans moi. Et pour prendre les meilleures décisions, j'ai besoin d'avoir les insights des employés. Donc, j'ai besoin d'écouter. Et en écoutant, en fait, mais vraiment, hein, pas en faisant semblant d'écouter, en écoutant vraiment, c'est comme ça que tu crées une vraie culture où tu résous les problématiques et j'identifie les signaux faibles, je vois qu'il y a deux personnes qui s'entendent mal, etc. Et j'anticipe tous ces trucs-là parce que j'écoute les gens, en fait, tout simplement.
C'est quoi le pourcentage de ton temps présentement qui est mis à ces rencontres-là, autant que tu investis sur ta culture d'entreprise? Tu faisais peut-être un petit schéma rapide?
Écoute, tu vois, chaque semaine, tous les lundis, je fais ce que j'appelle un all-hands. Donc, en fait, je donne pendant 30 minutes une conférence à l'interne sur toutes les dernières nouvelles de la compagnie, où est-ce qu'on en est dans les chiffres, etc., etc. Donc, ça me prend déjà une heure. À préparer, ça me prend 2-3 heures. Je fais 3 one-to-one par semaine et puis ensuite, je fais des points RH, etc. Et ensuite, je me pointe dans des réunions d'équipe. Donc, je dirais, je sais pas, 20% de mon temps est dédié au maintien de la culture d'entreprise.
Intéressant. Puis bon, vous êtes dans une entreprise technologique, tu l'as dit, tu as lancé l'entreprise avec ton colocataire à l'époque. Souvent, habituellement, quand on lance une entreprise technologique, il y a quelqu'un qui est davantage au niveau des ventes, du développement et quelqu'un qui est davantage au niveau technologique. Est-ce que c'était ton colocataire à l'époque? Est-ce que vous étiez deux personnes en vente, deux personnes en tech?
Alors, Louis et moi, on se ressemble oui et non, dans le sens où on est tous les deux issus de HEC Montréal, donc on a fait des études business, mais par contre, on est câblés de manière radicalement différente. Et en fait, chez Potluck, il y a un troisième cofondeur qui s'est greffé plus tard, qui s'appelle Jérémy, et qui, lui, est cofondateur et CTO. Donc, la partie technique est assurée par Jérémy. Et le reste, entre Louis et moi, et, écoute, c'est assez simple. Louis s'occupe de toutes les équipes qu'on appelle de frontliners. Donc, frontliners, c'est vendre et livrer le client. Okay, donc là-dedans, il y a plein d'équipes. Hein. Les SDR, les account exécutifs, le customer success. Et ensuite, tu as des équipes de delivery chez nous aussi. Donc ça c'est Louis qui s'en occupe. Donc Louis, il a un timing. Il a une échelle de temps. C'est le client est rentré, faut le signer, faut le livrer, etc. Et moi, je m'occupe de tous les projets de fond, tous les sujets qui prennent du temps. Donc la finance, les RH, le branding, le positioning, tout ce qui est talent sourcing, donc tous les gens qu'on recrute, c'est ça, le marketing, le produit, toute la stratégie produit, etc. Donc on n'est pas sur la même échelle de temps. Donc Louis, il est dans les opérations au quotidien, les mains dedans, et moi je m'occupe plutôt des sujets de fond, de l'entreprise, de la stratégie, etc. Et en fait, t'as besoin des deux parce que si te manque l'un, il te manque la vision et l'anticipation du prochain move. Et si t'as que un mec comme moi, y a personne pour gérer au quotidien les problèmes avec les clients.
Je serais curieux, Rodolphe, si tu peux nous parler un petit peu de l'évolution d'un fondateur comme toi qui a amené une entreprise en hypercroissance, une centaine d'employés maintenant. Comment ton rôle a évolué au cours des dernières années? Es-tu capable de nous dire un petit peu spécifiquement ce que tu faisais, disons, en 2017 Et par la suite, qu'est-ce que c'est devenu en 2018-2019? Et là, maintenant, on comprend aujourd'hui davantage ce que tu fais avec ce que tu viens de nous dire. Peux-tu nous dire comment un fondateur évolue dans une entreprise comme ça qui grandit aussi vite?
Alors, c'est une très bonne question. Tu as deux aspects, en fait. Tu as l'aspect de ce que tu fais et l'aspect de qui tu es. Donc, juste les prendre un par un. Donc, ce que tu fais, c'est assez simple. Au début 2017, on était juste trois, Jérémy, Louis et moi. Du coup, je faisais tout, en fait. Le cold call, la livraison des clients, c'est moi qui faisais les analyses statistiques, je faisais la mise en page. À l'époque, on livrait des rapports PDF, donc je faisais sur InDesign, je faisais les tableaux, je choisissais les couleurs des chiffres. Tu fais tout, en fait. Et au fur et à mesure, tu recrutes. Donc, nous, on a toujours réfléchi comme ça. On a toujours recruté pour se délester d'une partie de notre travail à quelqu'un de plus compétent. Et donc, en fait, au début, tu es trois fondateurs et ensuite, tu te découpes en petits saucissons comme ça et tu spécialises des gens. Et donc, quand tu es 10, tu as un mec qui va faire aussi plein de trucs. Et quand tu es 100, le job qui était dédié à un gars, il est maintenant divisé en 10 personnes. Donc, en fait, c'est toujours comme ça. Tu prends ton job et tu le divises. Donc, en fait, moi, j'ai passé au fur et à mesure. Au début, je vendais et je livrais moi-même les clients. Après, je me suis rendu compte qu'en livraison statistique, il y a des gens qui étaient meilleurs que moi. Donc, c'est la première partie que j'ai passée. Ensuite, on a recruté des premiers vendeurs. Donc, j'étais juste là sur les plus grosses ventes, etc., etc. Puis, au bout d'un moment, tu arrives mais encore une fois, mon poste aujourd'hui, il va encore énormément changer. Donc, je passe ma vie à me délester de sujets pour les donner à des gens plus compétents que moi. Et c'est super. Et la deuxième partie, c'est donc sur qui tu es. Je pense que c'est un voyage entrepreneurial, tu as plein de jolies expressions, mais dans un voyage entrepreneurial comme le nôtre, la découverte de soi est fondamentale. Et en fait, au début, je pensais que j'étais bon pour tout, que je pouvais tout faire, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu es globalement incompétent dans quasiment tout. Et moi, j'ai envie de garder que les sujets dans lesquels je suis vraiment bon et j'apporte une vraie valeur ajoutée. Et donc, en fait, ça, c'est la découverte. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé avant de monter Potluck. Et ça, je me suis découvert au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que j'étais super bon en ressources humaines, tu vois. Je me suis rendu compte que j'étais bon en vision long terme, que j'étais bon en financement. Et en fait, moins bon en mise en place de processus. Mais ça, tu peux juste le découvrir une fois que tu t'es pété la gueule 5 fois sur un sujet. Tu dis, en fait, je suis nul là-dedans. Et après, tu dis, soit je suis nul, je corrige. Soit, en fait, c'est juste que c'est pas mon skill set. Voilà, donc ça pour moi c'est une grosse évolution, c'est d'apprendre à identifier là où je suis bon vraiment et là où je suis nul vraiment, et en fait il y a plein de trucs où je suis nul.
Puis ce processus-là, bien entendu, tu peux le faire toi-même en regardant un petit peu qu'est-ce que t'aimes, où est-ce que t'es bon, où est-ce que t'es moins bon, mais également tu peux avoir des gens à l'externe qui vont t'aider dans ce cheminement-là. Est-ce que toi de ton côté, Rodolphe, t'as eu des mentors, t'as eu des coachs qui t'ont aidé à faire cette évolution-là entrepreneuriale au cours des dernières années, parce que là, elle a changé l'entreprise et à un moment donné, t'as pas une boule de cristal devant toi qui te dit exactement comment gérer une entreprise de 100 employés quand tu l'as jamais fait. Est-ce que tu as eu de l'aide de gens externes qui ont pu te dire un petit peu quels allaient être les prochains coups qu'il fallait que tu évites pour faire en sorte que l'entreprise passe à un autre niveau?
Ouais, moi j'ai eu plusieurs mentors, dont un qui est toujours mon mentor d'ailleurs, c'est un gars qui s'appelle Guillaume Jacquet, qui a créé une boîte qui s'appelle Chronogolf, qui a été acquise par Lightspeed. C'est un gars, il nous a aidés depuis 2015 et il nous aide toujours, il est toujours un independent board member, puisque il a juste 2 à 3 ans d'avance sur nous dans toutes les réflexions, toujours. Et puis, il garde cette avance, c'est là où il est fort. Donc, il reste ultra pertinent, même 6 ans après. Ça, c'est super important d'avoir des gens. Enfin, moi, dès que j'ai un truc où je sais pas, et puis je passe ma vie à avoir des trucs où je ne sais pas, mon premier réflexe, c'est d'appeler 3-4 copains qui ont une compagnie qui est plus grande que la mienne et leur dire, toi, t'as fait comment? Parce qu'en fait, tu sauves un temps fou. Au lieu de réinventer la roue, tu vas chercher cette information-là. Donc ça, c'est externe. Et après, je dirais qu'à l'interne, on a une tellement bonne relation avec mon associé et avec Louis. On se challenge tous les jours, on s'engueule, on n'est jamais d'accord. Lui, il voit toujours le court terme, moi, je vois toujours le long terme. Et en fait, la vérité, elle se trouve systématiquement entre nos deux points de vue. Et on se challenge tellement au quotidien depuis maintenant 7 ans que ça aussi, ça a fait beaucoup grandir, en fait. Donc, je pense que la relation avec mon associé est une relation qui m'a permis de beaucoup grandir.
Et les investisseurs, eux, dans tout ça, est-ce que tu sens qu'ils ont davantage une place de financement ou également ils peuvent agir comme des mentors, comme des advisors, des conseillers pour les différents fondateurs?
Alors, les investisseurs, ils ont une place de choix qui est qu'ils voient énormément de business. Leur métier, c'est de voir des business. Ils voient les business dans lesquels ils n'investissent pas et ils voient les business dans lesquels ils investissent. Et en fait, grâce à ça, ils ont une vue macro sur le marché que moi, j'ai pas du tout, parce que moi, je suis suis à la mine tous les jours, tu vois. J'ai mon téléphone, il sonne 160 fois par jour, Slack aussi, je reçois 10 000 emails, j'ai pas le temps d'aller passer ma vie à explorer ce que fait le marché. Or, les investisseurs, ils ont ce recul-là. Donc, en fait, ils sont capables en tout temps de te faire prendre les pas de recul nécessaires pour te dire, tu sais, Rodolphe, dans le marché, rares sont, je sais pas moi, les cofondateurs qui ne sont pas passés un moment par les États-Unis. Je dis n'importe quoi. Regarde, je te montre 10 success stories, dont deux qu'on a eu dans notre portefeuille, et regarde, ils ont tous fait ça. Et en fait, ils te feed. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur les insights, etc. Je te dis qu'il faut avoir des insights de l'interne, il faut avoir des mentors. Et eux, en fait, ils te donnent, moi, c'est un peu mes écoutilles vers le marché. Ils en ont vu d'autres, ils ont vu des erreurs, ils ont vu des entrepreneurs comme moi se planter. Après, tu as quelques fonds d'investissement, quelques investisseurs qui sont des ex-entrepreneurs. Et eux, en plus, ils ont la partie exécution et ils se rendent compte de ce que c'est que d'exécuter une business au quotidien. Donc voilà. Donc, nos investisseurs, nous, on est très, très proches d'eux. Donc, pour les nommer cette fois-ci, Investissement Québec, Desjardins, Ecofuel, Brightspark, BDC et un fonds français qui s'appelle Caporn. Et donc, je suis extrêmement proche de tous les investment partners de ces fonds-là. Et ils apportent beaucoup à l'entreprise. Ils nous apportent énormément. Ils font partie de l'aventure, si tu veux. Donc, une fois qu'ils ont fait le chèque et qu'ils ont pris X% de ta compagnie, ils sont sur le même bateau que toi. Alors, ils ont plutôt envie que ça fonctionne aussi.
J'aimerais parler à Rodolphe, l'investisseur aujourd'hui, parce que là, on a parlé beaucoup des gens qui ont investi dans ton organisation, mais corrige-moi si je me trompe, Rodolphe, et bon, je sais pas à quel point tu es impliqué dans ces organisations-là, mais j'ai cru voir que toi-même, tu es devenu investisseur chez une organisation qui se nomme Simplique et Monk AI. Peux-tu nous dire, ça ressemble à quoi tes implications dans ces organisations-là, et un petit peu, ça fait combien de temps, et quelles sont ces entreprises?
Alors, déjà, ce sont des investissements tout à fait modestes. Et voilà, donc ce sont deux entreprises, une en France, une au Québec, ce qui résume bien qui je suis finalement. je suis très proche de celle au Québec, qui est montée par quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle François Dequeret. C'est une start-up, un logiciel qui s'appelle Simplique et qui permet aux associations, donc tout ce qui est OBNL, d'avoir un système de paiement et de dons sur leur site internet qui ne prend pas de commission. Parce qu'en fait, une association moyenne doit payer, je crois, 3 à 4% de ses frais à Stripe chaque année, ce qui est quand même une aberration quand ils pensent. Et donc, eux, en fait, ils ont mis en place un système où tu n'as pas besoin de... où c'est absolument gratuit et ça marche uniquement sur un système de tips. Voilà, le fondateur est très intelligent, ils ont une superbe croissance de quasiment 10x year over year, ils viennent de faire une levée de fonds et en fait, moi, j'aide un peu François, qui a, on va dire, qui est comme moi, mais il y a 2-3 ans, à voir un peu voilà les murs ou les traces de sang que j'ai laissées sur les murs en lui disant évite ça. Et donc voilà, donc je suis assez impliqué. Celle en France, je suis moins impliqué, j'ai investi avec d'autres amis entrepreneurs. J'ai fait 2 autres investissements en France en fait, mais pareil, j'investis que dans des startups qui sont voilà, qui ont de l'hypercroissance, des fondateurs que j'estime voilà, mais c'est modeste comme implication à la fois financière et temporelle hein. Je passe pas tant de temps que ça à faire ça.
Est-ce que c'est quelque chose que tu vois peut-être faire dans les prochaines années, être davantage un investisseur, peut-être même un ange investisseur sur des plus grandes organisations?
Ouais, ben écoute, ça me plaît beaucoup en fait parce que je trouve ça cool et puis je comprends vraiment, tu vois, c'est-à-dire que moi un entrepreneur, il peut pas trop me bullshiter hein, parce que j'ai été là, je le sais, donc bon, je suis capable de voir les trucs, donc c'est je pense que je peux avoir un bon nez pour repérer les entreprises qui ont du succès, mais bon, après tu peux aussi beaucoup te planter, donc oui, c'est un truc que j'envisage, mais moi, je suis un entrepreneur, hein. Je suis un gars hands-on, je m'occupe de mes équipes, etc. Ma carrière d'investisseur, elle démarrera quand j'aurai 60 ans, tu vois. Donc là, c'est pas mon objectif à court terme.
Je comprends. Question plus personnelle, Rodolphe. J'ai beaucoup de gens qui viennent sur le podcast et je leur pose toujours les mêmes questions à la fin parce que c'est des questions que moi, j'utilise pour, par la suite, aller prendre ces mêmes livres-là et les lire. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires? Et si oui, est-ce qu'il y en a un dans les 12 derniers mois ou même dans les dernières années qui a marqué ton attention?
Alors, oui, je lis des livres d'affaires. J'en lis pas assez. Je devrais en lire plus. Moi, il y a un bouquin qui a beaucoup marqué mon imaginaire et qui m'a beaucoup aidé. C'est « Hard Things About Hard Things » de Ben Horowitz. Ben oui. Qui est pour moi un petit chef-d'œuvre de la littérature entrepreneuriale. J'en ai lu d'autres, hein, Zero to One de Peter Thiel, t'as Principles de Ray Diallo, Kim Scott qu'on a écrit un Radical Candor qui est très intéressant sur la façon de manager, etc. Tout ça, c'est des bons bouquins. Moi, mon best, c'est Hard Things About Hard Things. Et voilà. Après, il paraît qu'il y a plein de bons podcasts aussi à écouter, genre le podcast Hypercroissance, mais ça, j'ai pas le temps, en fait. En tout cas, je n'arrive pas à trouver le temps.
Donc, t'écoutes pas beaucoup de podcasts de ton côté?
Mais non, mais je sais que je suis un peu boomer là-dessus, hein, mais j'ai pas le temps. Je n'arrive pas à trouver le temps.
Mais parlant de temps maintenant, à quoi ressemble la routine de Rodolphe? Est-ce que tu as une routine qui est très cordée avant d'aller travailler ou ça peut varier beaucoup d'une journée à l'autre?
Non, écoute, moi je suis quand même très organisé. J'ai des journées qui sont réglées au cordeau. Dans une journée, je prends que des meetings normalement de 30 minutes et puis généralement ils s'enchaînent. Donc dans une journée, je peux avoir 20 meetings de 30 minutes les uns à la suite des autres. Donc je peux dire que j'ai intérêt à être sacrément en forme quand je me réveille. Non, écoute, je travaille beaucoup plus en termes de temps, de temps horaire. Tu vois, je travaille beaucoup plus que la moyenne, je pense. Ça, c'est une des clés du succès pour moi. Donc je travaille une journée minimale, c'est je commence tous les matins à 8h par un appel avec mon associé, je finis à 20h. Et ça, c'est une journée normale. Et puis après, tu rajoutes les nocturnes et les week-ends. Et puis ça n'a pas bougé depuis 7 ans. Voilà, il faut être un peu un bourreau de travail pour faire la croissance qu'on fait. Et ensuite, j'ai une vraie routine. En fait, c'est que j'ai des meetings et je m'y tiens. Et en fait, pour être à l'heure, je dois terminer les meetings à l'heure. Donc, je peux être un peu rude, je pense, en terminant les meetings, puisque je vais jamais dépasser. Parce que si je perds 4 minutes dans un meeting et puis re-4 minutes dans le meeting suivant, troisième meeting de 30 minutes, il en dure plus que 20 et puis là, ça fonctionne plus du tout. Donc, je suis assez radical sur mon organisation et je respecte mon agenda à la minute. Voilà, c'est ça mon organisation. C'est beaucoup de travail, un agenda réglé au cordeau. Week-end compris. Hein. Ça affole tout le monde, mais moi, j'ai aussi les rendez-vous le samedi PM, 13h, 14h, 14h, 15h, 15h, 16h. Tout est organisé comme ça.
Donc, ça, le travail continue le samedi, dimanche?
Non, mais je prends des rendez-vous pour le reste des trucs de ma vie. Je sais que je vais chez Home Depot de 13h, 14h. Tu vois.
OK, au niveau personnel. Mais tu sais quoi, Rodolphe? J'adore ce que j'entends parce que je suis pareil que toi là-dessus. Ça change pas le samedi, dimanche. C'est réglé au quart de tour. Ça t'enlève le poids de prendre d'autres décisions puis de pas savoir nécessairement où mettre la tête. Quand t'as des choses à faire qui peuvent être autant importantes qu'une décision d'affaires, c'est-à-dire faire des commissions le week-end, de l'avoir planifié en avance. Donc, je te comprends et je trouve que c'est une excellente technique. Rodolphe, avant de te laisser filer, comment on peut en apprendre plus sur Potluck? Est-ce que vous avez des postes ouverts présentement, peut-être pour les gens qui nous écoutent ou si les gens veulent en apprendre plus sur la plateforme?
Oui, bien sûr, potluck.com ou .ca. On recrute énormément, on a 46 postes ouverts présentement. Oh, wow. Donc on a, je n'ai plus l'URL en tête là, mais si vous allez sur potluck.com, en bas, vous avez un truc qui doit s'appeler carrière ou careers. Et puis là, vous cliquez et puis vous avez tous les postes qui sont ouverts. On recrute dans tous les départements, quasiment sans exception. Donc on cherche des personnes qui correspondent à nos valeurs, qui répondent aux compétences techniques que nous cherchons, ça c'est 50%, et 50% qui matchent avec notre culture d'entreprise, qui encore une fois peut être clivante, donc les gens qui s'y plaisent à fond, et puis les gens pour qui c'est pas fait, il faut vraiment pas qu'ils viennent chez nous parce qu'ils vont être malheureux. Donc c'est comme ça qu'on peut en apprendre plus. Après, on a plein d'articles, on a un blog très intéressant que je vous invite à suivre. Sur notre site internet, on fait également des études publiques. Donc en fait, on va étudier un sujet. Voilà, on avait, pendant le Covid, on avait fait une grande étude, on avait étudié tout le personnel soignant canadien, et puis on avait mis les résultats publics. Donc, si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble la technologie Potluck, comment sont interrogés les gens, derrière vous avez accès à un dashboard, vous pouvez croiser les données, vous pouvez aller accéder aux études publiques qu'on a, il y en a sur plein de sujets, et aller fouiller dans la data. Si vous êtes un peu un data geek, c'est assez sympa à faire.
Merveilleux. Ben, Rodolphe, merci énormément de nous avoir donné ton temps dans ton horaire qui est très chargé, comme tu l'as dit plus tôt. C'est très apprécié. Discussion qui a été fascinante. Merci beaucoup pour ça. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 75e épisode de Hypercroissance vous aura donné un boost de motivation en ce début de semaine. J'ai été très surpris d'apprendre pendant l'entretien que Rodolphe n'avait que 29 ans. Construire une entreprise de cette ampleur en étant si jeune est assez exceptionnel et j'espère que son histoire pourra en inspirer d'autres. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à J7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.